Vous écoutez Euradio Nantes, il est 8h.
It's 8 a.m.
Es ist 8 Uhr.
Son las 8.
Sono le 8.
Euradio Nantes, la diversité européenne au creux de l'oreille.
Sur 101.3.
Bonjour, nous sommes mercredi 12 septembre. Bienvenue à tous dans la matinale, l'émission qui vous réveille et qui vous informe. Avec nous, Richard O'Brien, mon collègue anglophone. Richard, bonjour.
Hello Delphine, how are you today?
Très bien, Richard, et vous?
Yes, I'm doing quite well, thanks.
Eh bien, j'espère que nos auditeurs vont aussi bien que nous, d'ailleurs. Alors, Richard, présentez-nous le contenu de la matinale d'aujourd'hui.
Well, coming up today, we're going to have the European Union news presented by Cyril Douya. We've got Emma Une, and today Dario Gruppi has been speaking to the editor of Malta Today about their front page. They're covering the European proposal to impose a 40% quota for female board representation on several companies by 2020. Of course, as ever, we have Les Temps Modernes by Thibaut Dumas, talking about the price of bread. And today's guest, l'invité d'actu, Dr. Norbert Wiener, a gynecologist at the hospital here in Nantes. He's talking about a new test, a kind of prenatal screening.
Commençons tout de suite cette matinale par le journal de l'Union européenne, un journal présenté par Cyril Douillard.
Euradio Nantes, le journal de l'Union européenne, Cyril Douillard.
Pêche durable, les règles communautaires doivent s'appliquer aux pays tiers qui exportent du poisson en Europe. Distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne, le rapport de Jean-Marie Cavada a été adopté ce mardi midi. Sanctions pour les pays tiers ne respectant pas une pêche durable, c'est l'un des volets de la future politique commune des pêches débattue ce mardi soir au Parlement européen et soumis au vote ce mercredi midi. Pour l'eurodéputée socialiste Isabelle Thomas, membre de la commission pêche, il est normal d'imposer aux pays tiers qui échangent avec l'Europe des règles communautaires en matière de pêche durable. Sur les sanctions envisagées, Isabelle Thomas.
Et dans ces mesures de rétorsion, on peut citer par exemple limites d'importation des produits en provenance de pays qui ne respecteraient pas une pêche durable. On met en action là une conditionnalité des importations, si vous voulez, et une politique de juste échange sur la question du poisson. Et puis également le fait de ne pas, par exemple, mettre nos ports au service de ces pays quand ils ne respectent pas une pêche durable.
Après le vote ce mercredi du Parlement européen, le Conseil devra se prononcer. Ce mardi midi, le rapport de Jean-Marie Cavada sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne a été adopté à une large majorité. Sur les principales propositions de ce rapport, écoutez l'eurodéputé du groupe PPE, Jean-Marie Cavada.
Il s'agit d'abord de garantir la sécurité juridique du droit d'auteur et au passage d'améliorer sa collecte des droits en Europe parce que tous les pays ne savent pas le faire de la même manière efficace. Il s'agit deuxièmement de respecter la neutralité de l'Internet, c'est-à-dire un outil qui est tout à fait fondamental pour la préservation de la diversité culturelle et pour le pluralisme des médias et pour l'accès populaire. Il s'agit troisièmement d'ouvrir rapidement des discussions pour régler la question des différences de taux de TVA qui sont applicables aux services hors ligne et ceux qui sont appliqués aux services en ligne. Voilà en gros les trois grandes directions sur lesquelles on a travaillé dans ce rapport.
Dans son rapport, Jean-Marie Cavada préconise également d'encourager, je cite très fortement, la signature au niveau européen d'accords collectifs entre les représentants des auteurs et les plateformes qui exploitent les œuvres sur Internet. Transport et détention illégale de prisonniers par la CIA dans les pays européens. Le rapport d'Hélène Flautre a été adopté à une large majorité ce mardi midi. Le Parlement européen veut mettre fin à un accord tacite entre les États-Unis et certains pays européens qui transgressent le respect des prisonniers, même présumés terroristes. Teneur en soufre des combustibles pour navires, des limites plus strictes ont été adoptées en session plénière à Strasbourg. La législation a déjà fait l'objet d'un accord avec les États membres. Les nouvelles limites générales s'appliqueront d'ici 2020. La pollution atmosphérique émise par les navires serait la cause de 50 000 décès prématurés chaque année. Les dons de tissus et de cellules doivent être volontaires, non rémunérés et anonymes dans la plupart des cas. Une résolution non contraignante a été adoptée ce mardi dans ce sens au Parlement européen. Les députés recommandent que les pays de l'Union européenne coopèrent mieux en matière de dons transfrontaliers. Les députés soulignent en outre les avantages éventuels de l'utilisation de cellules souches de sang, de cordon ombilical pour la médecine. De 0 à 11 500 euros, les frais d'inscription à l'université varient sensiblement d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Une étude publiée lundi par la Commission européenne fait la lumière sur ces variations. Les droits d'inscription sont les plus élevés au Royaume-Uni. En revanche, dans 9 pays de l'Union européenne, aucun droit n'est demandé. C'est le cas par exemple en Autriche, en Finlande et en Grèce. C'est la fin de ce journal de l'Union européenne. Merci de l'avoir suivi.
Tournons en l'an 2000, une année pleine de promesses. Cette année-là, la communauté internationale, dont l'Union européenne, s'est engagée à respecter un projet mondial. Objectif, réduire l'extrême pauvreté, aussi diverse qu'elle soit. À cette époque, la communauté internationale a défini les objectifs du millénaire pour le développement. Et parmi ceux-ci, combattre le sida et autres maladies, assurer un environnement durable, mais aussi promouvoir l'égalité des sexes. L'égalité entre hommes et femmes, c'est une problématique toujours bien actuelle. Et pour cause, l'Union européenne envisage d'imposer des quotas de femmes dans les entreprises européennes. Au moins 40% des membres du conseil d'administration devront être des femmes. L'obligation serait applicable dès 2020. L'Angleterre est la première à s'insurger de cette proposition. Cela vous étonne-t-il, Richard ?
No, to be honest, that doesn't really surprise me. I think in England, only about 15% of these top executive jobs are held by women at the moment. And I think the English government would like to increase the number of women who find themselves at the heads of companies, but this idea of quotas is something it's firmly opposed to, really.
Malte s'oppose aussi fermement aux éventuels quotas européens et c'est pourquoi Malta Today consacre sa une à ce sujet aujourd'hui. Dario Gropi a interrogé le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. C'est notre à ma une d'aujourd'hui.
3, 2, 1.
Euradio Nantes, à la une d'un pays.
Le journal européen European Voice est vendu dans plusieurs pays d'Europe. Il a été fondé dans les années 90 par le groupe du magazine économique The Economist. Il est édité à 19 000 exemplaires. À l'heure de la crise de l'eurozone, difficile pour l'Europe de conjuguer les enjeux politiques et économiques. Un challenge analysé par la magazine cette semaine. Plus de détails avec son rédacteur en chef adjoint, Simon Taylor.
Oui, en fait, on a à la une cette semaine, c'est les préparations pour une révision des traités européens. C'est quelque chose qui est en préparation par Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, José Manuel Barroso, le président de la Commission, et aussi la Banque Centrale Européenne. C'est des préparations pour un sommet en décembre. Et c'est vraiment c'est l'histoire d'une réponse politique à la crise de l'eurozone. On est en train, hier, on a vu la Banque Centrale Européenne annoncer des mesures exceptionnelles, l'achat des dettes des pays eurozone qui ont des difficultés à obtenir de l'argent sur les marchés financiers. Mais en même temps, Angela Merkel, la chancelière allemande, a beaucoup insisté qu'il faut en même temps une solution ou même un contrepoids politique aux mesures des marchés financiers, c'est-à-dire une intégration plus forte des pays, surtout membres de l'eurozone. Pour un changement de traité, il faut beaucoup de préparation. Il faut peut-être une convention, c'est-à-dire une assemblée des représentants des gouvernements nationaux, des députés européens. Mais c'est vraiment un marche en arrière pour l'intégration politique de l'Union européenne. Donc ça va être le début d'une période très intéressante, très stimulante et c'est pour ça qu'on a mis à la une de European Voice cette semaine.
C'était à la une d'un quotidien européen. À télécharger sur euradionantes.eu. Euradio Nantes 101.3, la matinale jusqu'à 9h.
Into a deep sleep she fell. Many hours she did miss. When she woke from her dreams, what am I told her this? I said I'm famous in Dallas. Oh yeah, I'm famous in Dallas. And I'm famous in Dallas. So yeah, I'm famous.
Breakfast Show from 8 till 9 on EU Radio Nantes 101.3 FM.
EU Radio Nantes 101.3 FM.
Listening to the Matinale, the morning show on EU Radio Nantes, and you've just heard Rum Tum Tiddles by I'm Famous in Dallas. What's coming up now, Delphine?
Eh bien, c'est l'heure des temps modernes. Aujourd'hui encore, notre journaliste se penche sur le prix du pain. À la boulangerie à la française, il n'existe qu'elle aux yeux des habitants de l'Hexagone et même d'ailleurs. Et pourtant, en Europe, on peut dessiner une véritable carte des pains. Ultime plongée gustative avec Eric Marché, artisan boulanger de pain, beurre et chocolat.
Un troisième épisode avec toujours Thibaut Douma au micro.
Thibaut Dumas.
La guerre du pain, troisième épisode, une géographie européenne du pain.
Un kilo de beurre.
Je suis Eric Marché. Notre petite boulangerie s'appelle Pain, Beurre et Chocolat. Et on est installé ici depuis octobre 2008.
Dans un pays où il y a 65% des sandwichs qui sont des baguettes vendues chaque jour, vous cherchez quand même des idées ailleurs en Europe. Culturellement, il faut se remettre en cause pour se différencier.
Voilà, il faut aller chercher des idées de recettes pour les garnitures de sandwichs, pour les pains. Par exemple, chez nous, on va proposer la baguette comme on en trouve. Alors, pas de la baguette moulée, bien sûr, hein, c'est la baguette de tradition parce qu'il faut qu'il y ait du goût. Il faut que, quand vous croquez dans un sandwich, il faut qu'il y ait de la mâche, il faut que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit du chewing-gum quand même. Hein. Donc, on va vous proposer de la baguette française type tradition avec des graines de pavot, avec des graines de sésame, nature, et puis des pains italiens comme des ciabatta. Alors des ciabatta qui vont sortir un petit peu l'ordinaire parce qu'on va y mettre du basilic dedans avec du blé dur, de la semoule, ou alors des ciabatta avec du curcuma, voilà, qui vont donner du parfum, des arômes, des épices différentes. C'est pour se démarquer effectivement. Des garnitures on fait une recette de pain avec du thon à la catalane par exemple, une autre avec de l'esquelidade qui sont des légumes grillés et puis qu'on fait mariner dans de l'huile d'olive, voilà, qui sont des pains des recettes qui viennent du sud de la France ou du sud de l'Europe. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on se démarque.
Si vous pouviez établir une sorte de géographie du pain en Europe, ça serait quoi?
Alors, une géographie du pain en Europe. On va être un petit peu bleu, blanc, rouge. Je dirais que le pain à croûte, en tout cas, c'est le pain français, c'est la baguette française. Voilà, c'est le modèle. Maintenant, il y a des pays qui font de très, très bons pains. Vous avez la Suisse, la Belgique, qui boulangent un petit peu comme en France et qui font des pains à croûte. Et puis, quand vous allez vers le nord de l'Europe, vous allez avoir des pains qui vont être des pains beaucoup plus compacts, beaucoup plus avec beaucoup de graines, avec beaucoup de qui vont ressembler plus à du pain de mie par certains aspects, ou comme du pain noir avec des couleurs très foncées, très compactes, comme le Wolkenbrot qu'on va trouver en Allemagne. Voilà. Mais qu'on propose aussi chez nous, parce que dans notre boulangerie, on a essayé aussi de proposer cette gamme de pains. Donc voilà la géographie. Puis plus on va descendre vers le sud, plus vous allez trouver des pains qui vont être moins cuits, avec moins de croûte, comme le ciabatta que je citais tout à l'heure, le pain italien avec de l'huile d'olive, ou des pains espagnols qui sont très peu cuits, avec des mies très claires. Voilà. Mais qualitativement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a eu un gros effort de fait de la part de la boulangerie française, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu une baisse de la consommation dans les années 80. Et là, il faut le reconnaître, c'est pas les boulangers qui ont fait l'effort, c'est les meuniers qui ont poussé les boulangers à revenir aux fondamentaux, hein, c'est-à-dire à travailler sur du levain avec des longues fermentations, avec des vraies cuissons pour avoir de la croûte sur votre pain. Pour retrouver le goût, parce qu'il y avait une désaffection de la part du client, hein, qui en avait marre de manger de la baguette molle, de la baguette moulée, avec un peu cotonneuse, vous voyez, très blanche, insipide. Aujourd'hui, vous retrouvez des pains avec du goût, avec de la mâche, qui vous donne envie de manger un bon morceau de fromage avec un bon verre de vin. Voilà.
Avec ces exigences de qualité, les influences que vous allez piocher un peu partout en Europe pour faire vos pains, comment on fait pour... créer de la cohérence et faire un commerce avec tout ça, c'est ça la vraie question.
Alors, la cohérence, c'est qu'il y a quand même 90% de notre de nos ventes, enfin de ce qu'on propose à notre clientèle, qui sont des bases de pain français. Alors il y a des pains régionaux quand même, il y a des pains qui viennent parce que même en niveau régional on a des différences, hein, en France, heureusement d'ailleurs. Et puis donc on travaille des farines différentes. parce que tous les goûts sont dans la nature, et puis aujourd'hui le client il a tendance à zapper rapidement, donc il faut de toute façon avoir une variété importante à proposer à nos clients. Alors la facilité c'est d'acheter du surgelé, et puis voilà, vous avez une grande variété de pains différents. La difficulté pour nous encore, c'est de nous démarquer en utilisant des farines de qualité, et puis des longues fermentations, ça veut dire beaucoup de travail. De toute façon, on n'a rien sans travail.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un décalage entre votre organisation minutieuse du quotidien? On voyait là affiché sur un mur les heures, les horaires pour la constitution de chaque pain ou de chaque viennoiserie, et des marchés mondiaux qui vont de plus en plus vite. Est-ce que vous vous sentez pris de court un peu par ça?
Alors, non, je dirais qu'au contraire, il faut que pour qu'on puisse la boulangerie puisse continuer à exister aujourd'hui, économiquement, malheureusement, il faut qu'on soit rigoureux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de fabriquer des croissants ou du pain sans en connaître le prix de revient, c'est-à-dire le temps qu'on y passe, sans être rigoureux aussi d'un point de vue de la qualité. C'est-à-dire que si on veut pouvoir continuer à vivre de notre métier, il faut que nos clients continuent à acheter nos pains, et pour ça, il faut être régulier, il faut être rigoureux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faire attention aux températures, il faut faire attention aux durées de pointage, enfin de fermentation, etc. Donc au contraire, c'est j'y rejoins aujourd'hui, c'est primordial.